l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. À la suite de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, certaines personnalités politiques et associations civiles sud-coréennes incitent à accueillir les réfugiés en Corée du Sud. Pourtant, les habitants sont encore nombreux à s'opposer à leur venue. Passons en revue les rumeurs en la matière et décelons le vrai du faux. Une des raisons les plus évoquées par les contradicteurs est que l'accueil des réfugiés représente une charge financière lourde pour le gouvernement. En effet, les demandeurs d'asile peuvent réclamer une aide financière en vertu de la loi, mais rares sont ceux qui en bénéficient. En 2019, seules 609 personnes, à savoir 3,9% de l'ensemble des demandeurs, se sont vues accorder une allocation. La durée de cette assistance en moyenne n'est que de 3 mois et l'enveloppe n'est pas importante. Cette année, 430 000 won sont versés par mois à un ménage composé d'une personne, soit près de 315 euros. Ensuite, certains craignent que le flux d'immigration ait un impact non négligeable sur la société sud-coréenne. Or, le taux de reconnaissance des réfugiés au pays du matin clair suit une courbe descendante. Entre janvier et juillet cette année, le taux d'obtention du statut de réfugié ne s'est établi qu'à 0,5%, à savoir 28 individus. Le chiffre continue à régresser après avoir atteint le pic de 3,6% en 2018. Par ailleurs, la rumeur selon laquelle les musulmans sont la majorité des demandeurs d'asile n'est pas totalement infondée. Entre 1994 et 2017, le pays qui a occupé le plus de place dans la liste des demandes d'asile était le Pakistan avec 13%. En dehors de la Chine qui s'est classée deuxième, on peut noter du troisième au cinquième rang figurent respectivement l'Égypte, le Nigeria et le Kazakhstan. Par ailleurs, contrairement à l'argument de certains, l'accueil des réfugiés musulmans n'est pas lié à l'accroissement de la criminalité. Par exemple, en 2017, l'Allemagne a abrité 330 000 réfugiés en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Mais la même année, elle a vu le nombre de crimes reculer de 9,6% sur un an. Le nombre de cas perpétrés par les étrangers a chuté de 23%. En effet, la plupart des Afghans qui implorent la Corée du Sud pour leur protection sont des interprètes, des personnels médicaux, des employés et des ingénieurs qui ont collaboré avec le gouvernement sud-coréen sur place. Qui plus est, parmi les 250 000 réfugiés nouvellement recensés depuis fin mai dernier, 80% sont des femmes ou des enfants. Jang Hae-young, député du Parti de la Justice, une formation de gauche, a récemment affirmé sur son compte Facebook qu'il fallait ouvrir le chemin de la solidarité internationale en abritant au moins la famille des femmes enceintes et les enfants et leurs familles. A noter qu'aujourd'hui, 378 Afghans sont arrivés sur le territoire sud-coréen. La journée de Park Ha-ja, une sud-coréenne de 77 ans, commence très tôt le matin. La première chose qu'elle fait, c'est de nourrir les poules dans sa cour et de nettoyer leur cage. Puis, elle passe le reste de la matinée à s'occuper des plantes agricoles. Après le déjeuner, elle prend en charge d'autres personnes âgées à mobilité réduite, un travail public proposé par le gouvernement pour les seniors. L'après-midi, passe en un clin d'œil pendant qu'elle fait le ménage chez eux et fait des petites corvées qu'ils demandent. Elle touche ainsi 300 000 à 500 000 won par mois, soit 220 à 370 euros. La septuagénaire ne dépense quasiment pas ce revenu et le met de côté parce qu'elle a un objectif plus important que de se faire plaisir, faire creuser des puits en Afrique. Selon un entretien accordé à l'agence de presse Yonhap, il y a 10 ans, Park a vu par hasard des enfants en Afrique qui tombaient malades à cause de la consommation d'eau insalubre. Elle avait mal au cœur en les voyant souffrir par manque d'eau potable. Après s'être serré la ceinture pendant 3 mois, en 2013, elle a fait un don de 10 millions de won ou 7 300 euros à l'organisation humanitaire World Vision. Cette année-là, le premier puits a été foré dans un petit village en Ouganda avec son nom. La Sud-Coréenne a continué à économiser économiser son argent pour ce projet. Et sa famille, comme ses proches, l'ont encouragé en lui donnant de petites enveloppes pour participer au bon geste. 8 ans plus tard, Park a mis en place des puits en Zambie, au Bangladesh et en Éthiopie. D'après la Sud-Coréenne, grâce aux puits, les enfants peuvent rester en bonne santé et aller à l'école au lieu de passer leur journée à transporter de l'eau. Comme elle regrette de ne pas avoir fait d'études, elle espère que ses bambins auront plus d'occasions pour apprendre. Certains voisins essaient de dissuader Park qui continue à faire des dons alors qu'elle vit elle-même dans un appartement vétuste. Or, la septuagénaire ne peut pas renoncer au plaisir de voir les photos où les enfants rient dans la joie en buvant de l'eau salubre. Une fois, l'association qu'elle sponsorise lui a proposé d'aller rencontrer les enfants qui bénéficient de son assistance. Cependant, Park a refusé en demandant que le budget de son voyage soit utilisé pour creuser un autre puits. Son histoire a remporté un prix au concours du récit du mécénat de World Vision cette année. À cette occasion, elle a été publiée en livre électronique et en livre audio. Selon Park, elle a parfois l'impression d'être accro à aider les enfants. Dans 3 ans, pour célébrer ses 80 ans, elle souhaite faire construire un nouveau puits au lieu de faire une fête. Un Canadien passionné de Macaulay a ouvert une usine de cet alcool à base de riz coréen dans la ville de Granby au Canada. Carole Duplain, ancien employé d'une entreprise de semi-conducteurs, a visité la Corée du Sud en voyage d'affaires et il est tombé amoureux des Macaulay de luxe. En 2016, il s'est reconverti en ouvrant une brasserie de bière au Canada et quelques temps plus tard, il a décidé de concocter également l'alcool traditionnel coréen qui l'a fasciné. En effet, en tant qu'amateur d'alcool, les produits importés de la Corée du Sud n'étaient pas à la hauteur de ses papiers. De plus, il a estimé que les Macaulay pourraient sûrement plaire aux consommateurs canadiens grâce à ses ingrédients peu communs et à son goût unique. En 2019, le Québécois s'est rendu au pays du matin clair pour apprendre la fabrication traditionnelle du Macaulay pendant 1 an. Dans ce cadre, il a lu des thèses en coréen en la matière qu'il a fait traduire en anglais. Le fait qu'il ait étudié la chimie à l'université l'a aidé à s'approfondir plus facilement dans ce domaine. Pour concocter un bon Macaulay, il est essentiel de confectionner un nouluk de bonne qualité. Il s'agit d'une sorte de levure permettant la fermentation alcoolique. Pourtant, il était impossible de trouver un moule à nouluk au Canada et il a dû en fabriquer un lui-même. Après une série de tentatives, Duplain a commercialisé il y a 1 mois Kanbe, qui signifie Chine en coréen. Sur l'étiquette de la bouteille en verre, il a mis un dessin de pleine lune et de pie pour donner une atmosphère coréenne. Pour l'heure, cet alcool s'écoule dans quelques points de vente à Montréal et au Québec à $14 la bouteille. Le Québécois a ouvert un site internet pour faire la promotion de ses nouveaux produits et prévoit d'accroître la production à 3000 bouteilles par mois cet hiver, contre 500 aujourd'hui. Le consul général de Corée du Sud à Montréal, Kim Sang-do, a visité la semaine dernière la brasserie de l'entrepreneur canadien pour l'encourager. Impressionné par la saveur du Macaulay Made in Canada, il s'est attendu à ce que ses activités contribuent à donner plus de visibilité à cet alcool au Canada. Dans la foulée, le consulat prévoit de promouvoir les exportations de boissons alcoolisées coréennes sur le marché canadien. Et maintenant, voici une petite pause musicale. Écoutons ensemble un verre de Macaulay de Kang Jin.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 26 août. Les consommateurs sud-coréens sont de plus en plus nombreux à opter pour des produits alimentaires pratiques. Et bientôt, on pourra même se préparer du vin chaud aussi facilement qu'on se fait un thé. Le service de recherche et de vulgarisation agricole de la province de Chungcheong du Nord a récemment mis au point une technique permettant de faire du vin chaud en moins d'une minute. Les chercheurs ont fondu du sucre pour fabriquer 2 dômes vides. Et ils ont rempli la sphère ainsi créée avec des fruits secs et des herbes de médecine orientale. Pour savourer cette boisson hivernale représentative de l'Europe, on n'a qu'à mettre cette boule dans une tasse et à verser au-dessus du vin qu'on vient de bouillir. Pas besoin d'acheter des épices de toutes sortes ni de surveiller la casserole sur le feu. On peut ainsi apprécier cette boisson qui permettra de réchauffer le corps et l'ambiance n'importe quand et n'importe où. Regardez la boule de sucre fondre et des ingrédients de toutes les couleurs s'en échapper constituent également un autre plaisir. comme ce kit de vin chaud ressemble aux bombes de bain qui se dissolvent dans l'eau de la baignoire en diffusant un parfum et des bulles, cette technique est dénommée vin chaud bombe. Il est également possible de personnaliser son vin chaud en ajoutant ses ingrédients préférés dans la boule sucrée. L'Institut de recherche du vin compte commercialiser ses produits pour promouvoir les revenus des fermes viticoles sud-coréennes. Un patron d'un chai a espéré utiliser ce kit de vin chaud pour proposer une expérience attirante aux visiteurs. La culture alimentaire des Sud-Coréens est en pleine évolution. Depuis l'apparition de l'épidémie du Covid-19, ils prennent leur repas plus souvent à la maison, mais cela ne signifie pas qu'ils cuisinent davantage. En effet, ils optent de plus en plus pour des plats livrés et ou à emporter, ainsi que des kits de repas dont les ingrédients sont prêts à cuire. C'est ce que nous montre l'enquête du quotidien Jungang Ilbo et le cabinet Tillion Pro, réalisé auprès de 2523 personnes de 20 à 69 ans. Selon le résultat, 35,1% des interrogés prennent au moins la moitié de leur repas avec ces nouveaux types de mets. Cette proportion est similaire à celle des individus qui cuisinent leur repas eux-mêmes. Ce changement est plus marqué chez les 20-39 ans. Parmi eux, 45% ont l'habitude de manger des nourritures toutes faites, à savoir deux fois plus que ceux qui cuisinent. Kim, une salariée de 36 ans, avec deux jeunes enfants, travaille à domicile à cause de la pandémie. Comme elle doit faire à manger à la maison trois fois par jour tout en travaillant, pendant la semaine, sa famille s'alimente avec les plats commandés. Et elle et son mari cuisinent seulement le week-end. Quel est alors le type de plat rapide le plus populaire? Eh bien, ce sont les produits transformés comme la pâtisserie ou le gâteau de riz qu'on peut engloutir directement après avoir enlevé l'emballage. Les plats instantanés à réchauffer dans le micro-ondes ont occupé la deuxième place, suivi des mets livrés ou achetés dans un magasin. Viennent ensuite les kits de repas qui nécessitent une préparation de 5 à 10 minutes. D'ailleurs, le changement d'habitude alimentaire n'est pas sans lien avec l'évolution de la perception sur les plats industriels. Mais allons y voir de plus près. Toujours d'après le sondage, 55,6% des interrogés ont déclaré avoir moins de jugements négatifs sur les produits transformés et en consomment davantage par rapport au passé. D'après Liu, une sud-coréenne de 32 ans, cela fait 10 ans qu'elle ingurgite un plat fait maison seulement une ou deux fois par mois. Elle évite de cuisiner coréen parce que pour cela, elle doit s'équiper de plusieurs assaisonnements comme la sauce soja, la purée de piment et l'huile de sésame. L'élargissement du marché des repas industriels y a également joué un rôle. Les entreprises alimentaires proposent des produits diversifiés allant du ragoût de bœuf au ginseng jusqu'à la soupe d'algues à l'albalone, en passant par la pâte de soja aux légumes et aux fruits de mer. Le déclin des repas faits maison est également lié à l'accroissement des foyers composés de jeunes générations. Qui plus est, si on calcule le coût des ingrédients et le temps pris pour faire la cuisine, c'est souvent plus rentable d'aller au restaurant. Dans la foulée, le préjugé selon lequel la cuisine est la place des femmes est en train de disparaître. Selon Anne, une femme de 38 ans, c'est son mari qui se charge entièrement de la cuisine et il prépare même le déjeuner du lendemain pour elle qui télétravaille. Les plastiques ont plus que jamais envahi notre quotidien. En 2018, le volume de déchets plastiques de produits dans le pays du matin clair s'est élevé à 8,2 millions de tonnes. 54% sont provenus des entreprises et 39% des ménages. 66% des ordures sont recyclées, mais le reste est incinéré ou enterré. La pandémie de Covid-19 a accéléré ce phénomène avec l'accroissement de la livraison des plats et des marchandises. Dans ce contexte, le ministère de l'Environnement a retroussé ses manches afin de doper la production de l'huile pyrolyse à partir des plastiques jetés. En Corée du Sud, la plupart du recyclage consiste à fondre les plastiques pour créer des fibres textiles ou des plastiques recyclés. Pourtant, cette méthode a des limites parce que le processus varie selon la matière et que la qualité du plastique baisse après le recyclage. Mais il y a une autre solution. Transformer les déchets plastiques en une huile qui peut ensuite être utilisée comme matière première des produits pétrochimiques, c'est-à-dire ramener les plastiques à leur état d'origine. Tous les types de plastiques peuvent être recyclés de cette manière, sauf ceux qui sont thermodurcissables. Un autre avantage est qu'on n'a pas besoin de les laver ou de les séparer en fonction de leur nature. Au pays du matin clair, 11 installations de pyrolyse sont en service actuellement. L'initiative du gouvernement a pour objectif de transformer 10% des déchets plastiques en huile d'ici 2030. Pour produire 900 000 tonnes contre 0,1% aujourd'hui. Pour y parvenir, l'exécutif prévoit de réviser la législation afin de permettre d'utiliser cette huile comme matière première pétrochimique. Pour le moment, on peut l'exploiter seulement comme des sources d'énergie industrielle, telles que le carburant pour la production d'électricité. Ensuite, afin d'assurer l'approvisionnement stable en déchets plastiques, 50 installations seront mises en place d'ici 2030 pour trier les sacs plastiques jetés. Les acteurs du domaine pourront également bénéficier de subventions et de la réduction de la contribution écologique. Un autre plan sur le moyen et long terme est de produire de l'hydrogène en utilisant le gaz émis lors de la pyrolyse. Dans ce contexte, le géant de la pétrochimie SK Global Chemicals projette d'investir 600 milliards de won, soit 437 millions d'euros, en vue de construire une usine d'huile en provenance des plastiques à Ulsan d'ici 2025. Selon un universitaire du génie écologique, l'huile pyrolytique est directement liée à la survie des entreprises au-delà de la rentabilité et c'est une opportunité que la neutralité carbone leur offre.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour Bon Plan de Sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays du matin clair, le tout en 5 minutes chrono. Au programme cette semaine, un concert de chansons folkloriques interprétées entre autres par une star du Gugak, de la danse hip-hop mêlée à de la danse traditionnelle coréenne et une comédie musicale autour de la vie du dramaturge français Antonin Artaud. Mais avant cela, un événement qui vous permettra d'entendre les chansons cultes du cinéma chantées en live. Bon plan de sortie, c'est parti! L'acteur de comédie musicale Lee Chung-ju et le chanteur baryton basse Gil Byung-min se produiront ensemble le 28 août au Lotte Concert Hall à Séoul pour un concert intitulé Cinéma Live. Les deux jeunes artistes interpréteront sur scène une sélection des plus belles chansons de films. Ils seront accompagnés par le Millennium Symphony Orchestra dirigé par le chef d'orchestre Choi Young-soon. Lee Chung-ju a étudié le chant classique à l'université avant de faire ses débuts sur les planches avec la version sud-coréenne de la comédie musicale américaine Spring Awakening en 2009. Quant à Gil Byung-min, c'est un lauréat de nombreux concours de chant classique. Il est aujourd'hui membre du groupe vocal de crossover L'été à mort. La chanteuse Song So-hee, le groupe Second Moon et le chanteur Kim Dae-hil donneront ensemble un concert les 3 et 4 septembre au centre d'art Ulim Nuri à Goyang dans la province de Gyeonggi. Lors de ce concert intitulé Modern Minyo, ils interpréteront sur scène des morceaux de Gyeonggi Minyo, des chansons folkloriques traditionnelles originaires de Séoul et de la province de Gyeonggi, ainsi que des créations originales. Song So-hee est une star du Gugak, la musique traditionnelle coréenne, révélée comme une enfant prodige dès son plus jeune âge. Second Moon est un groupe de musique du monde d'inspiration ethnique composé de 5 membres et qui a fait ses débuts en 2005. Quant à Kim Dae-hil, il est chanteur de musique traditionnelle coréenne spécialisé dans le pansori. Il est membre de la troupe d'opéra traditionnelle du Centre National de Gugak Hanamwon dans la province de Jeolla du Nord. Le centre de musique traditionnelle coréenne de Yeonjong à Daejeon organisera le 9 septembre un concert intitulé La musique danse. Ce concert mêlant musique du monde, hip-hop et danse traditionnelle coréenne mettra en vedette le groupe Gong Myung et la troupe de danse Gorilla Crew. Seront également présents sur scène la violoniste Kim Mi-hyun, la bassiste Nodi, la joueuse de Gaegeum Lee Ji-hyun et la danseuse traditionnelle Jang Su-ji. Gong Myung propose depuis 1997 des concerts combinant la musique coréenne avec les musiques du monde. Gorilla Crew est une troupe spécialisée dans la danse hip-hop créée en 1998. « Enfin, la comédie musicale Arto Gogre est actuellement jouée au Uniplex Hall 2 situé dans le quartier Daegno à Séoul. Il s'agit d'une fiction inspirée par la vraie vie du théoricien de théâtre et dramaturge français Antonin Artaud qui voyait son alter ego en Vincent van Gogh, célèbre peintre impressionniste néerlandais. Artaud souffre de la douleur physique due aux séquelles de la méningite qu'il a eue tout petit. Après l'échec cuisant de l'une de ses pièces de théâtre, il est atteint de troubles mentaux et placé en hôpital psychiatrique. Durant son internement, il explore son inconscient à la recherche des traces de Van Gogh. Les deux génies se rencontrent par l'intermédiaire de leur docteur. Le rôle d'Arto sera joué par Yoo Sang-hyun, Han Jae-young, et celui de Van Gogh par Yoo Hyun-suk, Kim Jun-young et enfin Park Ja-hoon. Quant au rôle de leur docteur, il sera tenu par Kim Joo-ho et Lee Hyung-hoon. Le spectacle qui a commencé le 6 août restera à l'affiche jusqu'au 3 octobre. Cette édition de Bon Plan de Sortie est maintenant terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atleni au micro, Lee Ji-hyun à la rédaction avec Ho Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.